France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire avec un parfum d'embrun aujourd'hui. Jean Lebrun, à l'occasion du sommet international sur les océans à Brest, on parle de surcouf. Deux biographies sont consacrées ces jours-ci aux Malouins. Aujourd'hui, 73 marins de course au large appellent à protéger ce bien commun qu'est la haute mer. La course au large a différencié de la course des corsaires, ces actes de piraterie pratiqués au XVIIe et XVIIIe contre les ennemis avec l'aval du roi. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que le capitaine corsaire ne voyait pas la mer comme ses descendants du XXIe siècle.
Alors il y a un appel donc qui paraît dans le Point et qui présente, il est signé par des marins de course d'aujourd'hui, la mer comme le lieu qui permet la quasi-totalité des échanges du monde. Et les deux biographies que vous évoquez, Michel Verger-Franceschi et mon homonyme Dominique Lebrun, convergent au moins sur un point. Surcouf, qui atteint l'âge de commander en 1793, quand reprend la guerre avec l'Angleterre, ne conçoit pas celle-ci, la guerre à mer, comme les marins de course d'aujourd'hui. Pour lui, c'est le moyen de défendre la patrie, peut-être, mais c'est aussi celui d'étendre les intérêts de sa famille et de sa personne.
Et si on reprend l'appel des 73 marins de cette année, de 2022, Jean, on lit que la mer inspire les poètes.
Exemple, on va vous écouter, Marion.
Le 31 du mois d'août, nous aperçûmes sous le vent à nous une frégate d'Angleterre. Nous l'avons prise par son avant à coups de hache d'abordage. Nous l'avons mise à la raison. Et merde pour le roi d'Angleterre, je vous le chante pas.
Ça, c'est la course à l'ancienne. C'est le chant d'agonie de la course sur Couf. On va la pratiquer jusqu'en 1814. 281 bateaux corsaires auraient été armés à Saint-Malo depuis 1793. Mais pour quel bénéfice réel, demande mon homonyme Lebrun. Les pays neutres supportent de plus en plus mal la course. Et parmi les neutres, il y a alors les États-Unis, la Russie. C'est le langage des 73 de 2022 qui commence à pointer. Les blocus, la brutalité sur les océans, c'est intolérable. La course, c'est le résidu d'une piraterie qu'il faut éradiquer. Au nom, je cite encore les 73, du bien commun unique qu'est la mer.
Surcouf était déjà d'un autre temps à son époque.
Oui, Verger-Franceschi note qu'au fond, son seul exploit incontesté, c'est la prise du Kent en 1801. Et bien d'autres de ses hauts faits ont provoqué des réserves chez ses contemporains. En 1796, le gouverneur de l'Île-de-France, l'actuel Maurice, confisque ses prises, car il est allé au-delà de ce que permettaient ses lettres de marque. Pareillement, 1808-1809, le nouveau gouverneur de la même île confisque son revenant et jusqu'à ses biens. D'ailleurs, à Paris, il a suscité aussi l'agacement. Pourquoi ne s'engage-t-il pas dans la marine nationale? Ça, c'est l'avenir.
Les 73, encore de 2022, je les cite, « La mer, c'est le lien inaltérable entre les pays et les cultures du monde ».
Oui, à l'automne de l'an de grâce, 1789, Surcouf participe à sa première expédition négrière. Les planteurs antillais ont passé commande de noirs directement à Mozambique et le jeune Surcouf est sur place. Quand il débute, la traite est légale, puis ne l'est plus. Puis, le redevient, 1802. Enfin, ne l'est plus. Alors, il s'embarrasse assez mal de tant de subtilité. Le meilleur biographe de Surcouf, c'est en fait Alain Roman, récemment disparu, qui a parfaitement documenté la question. Entre 1815 et 1825, 10 voyages de traite illégale sont partis de Saint-Malo. 6 ont été organisés par Surcouf. Il ne me semble pas que mon homonyme Lebrun ait suffisamment noté ce fait établi dans son livre. En revanche, on lit ceci sous sa plume, page 76. À la fin du 19e, nul encore ne relève le caractère criminel de l'esclavage ni de la traite négrière, et cet état d'esprit va perdurer. Jusqu'à la fin du 19e, mais alors qu'ont fait les différentes associations anti-esclavagistes pour être ainsi rayées des mémoires? Lebrun, qui reprend systématiquement toutes les légendes mythifiant Surcouf, non sans préciser qu'elles ne sont fondées que sur l'imaginaire malouin, généralement, en reproduit une qui vaut son pesant d'or. Surcouf, croisant au large du Cap-Vert deux navires négriers américains et constatant l'état des captifs, aurait fait promettre à l'un des deux capitaines d'abandonner cet atroce métier. Que ne l'a-t-il fait lui-même?
Surcouf, marin de légende, il y a surtout, Jean, une légende Surcouf.
Oui, alors le jeune Surcouf qui grimpe aux vergues peut séduire. L'amateur devenu armateur et revenu vieilli avant la quarantaine à son port de naissance achètent à tout bout de champ des terres, des hôtels, des maisons. Il est devenu si gras qu'il lui faut aussi acheter, quand il va à Paris, des ceintures pour lui soutenir le bas-ventre. Mmh. Alors à l'époque du sommet pour les océans, Cardera, la très belle statue de Surcouf sur les remparts de Saint-Malo, des plus beaux endroits que nous connaissons, n'est-ce pas Marion ? Mais se choisira d'autres héros.
En tout cas, dans le combat éditorial, le vainqueur au point est Michel Verger-Franceschi, Surcouf, la fin du monde corsaire, passé composé qui l'emporte, c'est vous qui le dites hein Jean, sur Dominique Lebrun, Surcouf, le tigre des mers, Talendier. Merci donc à Jean Lebrun et à demain. France Inter.